Pour arriver à configurer un petit peu cette intervention, j'ai décidé de la rapprocher du modèle de la promenade. Et donc c'est une invitation à la promenade qui s'adresse de façon générale à ici, mais qui s'adresse tout particulièrement à Jonathan et à Pierre. Et donc pour arriver à les accrocher ou à les inviter sur cette promenade, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'avoir une approche presque cartographique, de partir, essayer de leur donner une carte, des indications de départ pour ce chemin d'indication de départ sur la présence ou les signes ou les principaux reliefs qu'on peut trouver du fouriérisme dans ce corpus des années 31-35. Donc c'est pour ça que j'ai commencé, la toute première illustration que j'avais donnée était une carte de Plan de Lyon, un Plan de Lyon qui a été fait en 1830. On voit déjà la cité, les principales concentrations urbaines à ce moment-là. C'est un plan également qui va changer assez vite, dans la mesure où deux ans à peu près après un an et demi ou deux ans après cette carte qui a été faite en 1830, il y aura eu l'insurrection canue de novembre 31, il y aura des forts à peu près qui seront tout autour des zones dites dangereuses, et donc les cartes vont changer. Donc c'était donner une carte, et puis j'ai donné également pour ouvrir cette présentation. On la voit pas bien, on la voit bien mieux sur le site. C'est un plan panoramique de la ville de Lyon. Il y a deux ou trois plans à ce moment-là qui ont été faits et qui captent finalement dans cette sous ce format-là, qui essayent de capter dans toute sa surface la ville de Lyon à l'époque. Quant à ma présentation, donc elle portera sur le fouriérisme des canuts. J'aborderai trois points. En premier point, je vais très rapidement rappeler quel est le paysage de Lyon, le paysage général, c'est-à-dire Lyon à peu près dans la période 1831-1834 ou 1835. Puis je ferai vraiment un relevé des principaux reliefs qu'on peut trouver du fouriérisme dans le corpus de l'écho de la fabrique. Je donnerai deux ou trois indications, mais qui sont des indications très générales sur ce que finalement... moi, en tant que lecteur non fouriériste, plutôt économiste d'ailleurs.
Moi, je suis pas fouriériste.
Oui.
Non, spécialiste. Non, c'est le dire.
Bon, d'accord. Je ne ferai plus jamais l'erreur. En tant que non connaisseur, même précis des œuvres de Fourier, je dirais ce qui m'a semblé être la lecture. Ou l'analyse de, donc j'ai continué là, en fait, l'analyse de ces reliefs fourriéristes dans l'écho de la fabrique, et puis je finirai sur quelques questions. Alors, dernière image, mes images ne sont pas très bien intégrées. Hein. C'est un dessin d'un canut en 1836, fait par Joanny Augier, je crois, qu'on trouve dans une des illustrations de l'époque. Alors, concernant Lyon entre 31 et 34, quelques éléments un peu pour contextualiser. D'abord, la période qui nous intéresse dans l'écho de la fabrique suit de très près la révolution de 1830, qui est quand même une révolution qui a été très longtemps minorée par l'historiographie moderne, comme étant considérée comme la toute petite sœur de 1789 et 1848, mais qui a été réhabilitée par exemple par des gens comme Agulon, qui a considéré que c'était une révolution tout à fait fondamentale, dans la mesure où un certain nombre de libertés étaient connues au lendemain des Trois Glorieuses, des avancées qui sont des avancées majeures, hein, par exemple sur la presse, sur la laïcité, sur la citoyenneté politique. C'est à la suite de la révolution de 1830. On est également à Lyon, à Lyon et en France, et plus spécialement à Lyon, dans un cadre à la suite de la crise économique des années 27-31, qui est la première crise un petit peu mixte qu'on trouve au XIXe siècle, qui a un contenu d'autant plus mixte, mi-ancienne crise d'ancien régime, crise agricole, mi-crise industrielle, qu'on se trouve à Lyon, qui est une cité très industrielle, dans laquelle les activités économiques sont extrêmement développées. C'est une crise économique qui frappe également, parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y en a eu avant, et qu'elle semble se répéter, donc il y a un problème de récurrence des crises qui commence à apparaître. Et ça, par exemple, les économistes les voient. Et ils commencent à s'emballer non seulement dans les pays de langue anglaise, mais également en France, avec des gens comme Sismondi ou Jean-Baptiste C, sur le problème de la présence des crises et de leur récurrence dans le cadre du système nouveau. Lyon, au lendemain de 1830, c'est, sur le plan économique, c'est les canuts et le système de la fabrique. La fabrique, en fait, ce qu'on appelle la fabrique à Lyon, c'est nous, on travaille donc sur l'écho de la fabrique. La fabrique, c'est l'industrie de la soie. Et l'industrie de la soie à Lyon, à ce moment-là, est organisée sur le modèle de la manufacture dispersée. C'est un réseau d'ateliers, de petits ateliers, qui couvrent en particulier tous les faubourgs de Lyon, à la Croix-Rousse, à Saint-Georges, à Vaise, à la Guillotière et autres. Ces ateliers, dans le cadre de ces ateliers, travaille une population industrieuse qu'à ce moment-là on appelle les canuts. Et cette population industrieuse est une population relativement à la fois homogène mais également relativement hétérogène, puisque à l'intérieur de l'atelier on trouve le chef d'atelier, et le dessin qu'on a vu tout à l'heure était plutôt plutôt un chef d'atelier qui est finalement un artisan qui travaille dans le cadre de son atelier, mais qui est presque un petit entrepreneur, qui est le chef d'atelier. Il y a souvent la femme du chef d'atelier qui est intégrée à cette économie domestique et qui a d'ailleurs des fonctions très importantes dans le cadre de cette économie domestique, pas simplement à l'intérieur de l'atelier, mais également des fonctions de transaction. Et puis, il y a des compagnons qui sont des ouvriers qui travaillent sur l'un des deux ou trois ou quatre, jusqu'à sept ou huit métiers qu'on trouve dans le cadre de l'atelier. Et puis il y a également des apprentis qui ont un long travail d'apprentissage, dans la mesure où le filage de la soie, et c'est pour ça qu'on est encore sur le modèle de la manufacture dispersée, et qu'on va demeurer sur ce modèle-là pendant pratiquement un siècle, et que ce modèle va résister au modèle de la manufacture concentrée, le travail de la soie est un travail extrêmement complexe. C'est une économie de variété, c'est une économie qui change très très vite, qui doit s'adapter aux flux de la mode, qui sont des flux nationaux, locaux, et également des flux internationaux. Donc nous, notre écho de la fabrique parle principalement de cette population-là. Ce qu'il faut dire également sur Lyon entre 1831 et 1834, c'est qu'à Lyon, un petit peu comme dans le reste de la France, on s'est saisi de l'article, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est l'article 7 de la charte de 1830 qui dit que finalement les Français peuvent publier leurs opinions à partir de 1830. Donc on sait que juste au lendemain des Trois Glorieuses, il y a une libéralisation importante de la presse, un peu partout en France, que cette libéralisation de la presse donc, permet un renouvellement de la presse parisienne par exemple, mais permet également le développement d'une presse régionale qui commence à être une presse régionale autonome. À Lyon, c'est le cas, il y a un champ journalistique qui se développe, qui est un champ journalistique assez diversifié, où toutes les opinions sont en... que ce soit l'opinion légitimiste, l'opinion du nouveau pouvoir orléaniste, l'opinion républicaine, s'exprime. Ce qui est neuf à Lyon et qu'on ne trouve qu'à Lyon, c'est donc cette presse ouvrière. Dans la mesure où, au lendemain de 1830, il y a eu quelques feuilles ouvrières à Paris qui ont paru pendant... en septembre 1830, qui ont paru pendant quelques semaines, mais ces presses sont très rapidement périclitées. Et donc il y a un endroit où la presse va durer, va s'installer, va s'exprimer pendant trois ans de suite, dans le cadre d'un hebdomadaire, c'est à Lyon, avec ce journal qui s'appelle l'Écho de la Fabrique, donc qui commence à apparaître en octobre 1831, à la fin du mois d'octobre 1831, donc trois semaines, quatre semaines avant la première insurrection de Lyon qui a lieu à la fin novembre 1831, et va durer pour l'écho de la fabrique jusqu'à la seconde insurrection qui a lieu en avril 1834. En avril 1834, le journal disparaît pendant quelques semaines, et puis cette presse lyonnaise ouvrière reparaît encore pour une année entre l'automne 1834 et 1835. Alors ça s'appelle plus l'écho de la fabrique, ça s'appelle l'Indicateur, le journal du progrès social, et il y a quelques autres journaux qui sont concurrents. Et puis à l'automne 1835, toute cette presse disparaît. Il y a des lois d'exception sur la presse suite aux attentats qui ont eu lieu contre la personne du roi. Et la presse, cette presse ouvrière disparaît pendant 4 ou 5 ans. Elle va ressurgir en 1840 et va durer encore après 1840. D'ailleurs, avec quelques acteurs qu'on trouve dans cette période-là. Et elle durera jusqu'à 1851 avec d'autres supports de presse. Ça, c'est un point important de la situation du paysage lyonnais de la période. Le dernier point important, c'est que bien sûr, c'est à Lyon que se développent deux grandes insurrections. La première, donc en novembre 1831, où les ouvriers qui ne sont pas contents des conditions du prix des tarifs de leurs travaux à façon sur le marché de Lyon, demande en fait une régularisation de ces tarifs, demande un minimum sur les tarifs des façons, parce qu'ils considèrent que ces tarifs baissent. Ils l'obtiennent dans un premier temps dans le cadre d'une véritable, sans faire d'anachronisme, dans le cadre d'une convention collective qui est signée avec quelques négociants, qui sont censés représenter le corps des négociants d'un côté, quelques chefs d'atelier en présence du préfet, et puis dans le courant du mois d'octobre et du début du mois de novembre surtout, 1831, cette convention sur des tarifs minimaux est dénoncée par les autorités en particulier nationales, qui considèrent que cette convention dans laquelle est intervenu le préfet est contraire aux lois libérales de la charte de 1830, donc les tarifs sont déclarés non impératifs. Les négociants rebaissent les tarifs, et donc ça déclenche une première insurrection pendant laquelle, à la stupéfaction de toutes les ouvriers lyonnais battent les troupes, expulsent les troupes de Lyon, les troupes du roi, s'installent pendant une dizaine de jours dans le cadre de la ville de Lyon, et administrent la ville de Lyon de façon très ordonnée et très calme pendant 10 jours avant de rendre le pouvoir aux autorités. Ça, c'est la première insurrection. La deuxième insurrection arrive en 1834. Là, les conditions ont changé. On est dans une phase de bruissement du régime de Juillet. Il y a une agitation républicaine qui est beaucoup plus importante. Les ouvriers sont beaucoup plus conscients, finalement, de l'amplitude de leurs revendications. Et en avril 1834, il y a une seconde insurrection qui se développe, plus politique, et qui, elle, est par contre est réprimée de façon très très lourde par les autorités. Donc voilà pour un petit peu ce paysage général. Dans le cadre donc de la presse lyonnaise de cette période-là, de la presse canue, quel relief on trouve plus spécifiquement sur le fourriérisme? Alors j'ai distingué trois groupes. Les toutes premières mentions du fourriérisme apparaissent pendant l'été 32. Donc le journal a déjà 8 ou enfin pratiquement c'est la fin de sa première année. Dans toute la première période du journal, qui est 1831, octobre 31 jusqu'à l'été 32, il y a une référence qui domine très très nettement le journal, c'est la référence saint-simonienne. À partir de l'été 1832, cette référence est de moins en moins dominante, on continue à la mentionner, mais du moins elle est mélangée, et dans le cadre de ce mélange, il y a d'autres ingrédients qui prennent le dessus, en particulier le républicanisme, mais également le fourriérisme. Et donc on trouve l'un des premiers textes importants, on le trouve en août 32. Donc dans cette première période, j'en ai trouvé un aussi sur la colonie sociétaire en décembre 32, qui sont signés par Marius Chastain. Marius Chastain étant depuis la fin du mois d'août, enfin depuis là aussi depuis l'été 32, le rédacteur en chef de l'Écho de la Fabrique. Et puis au tout début de l'année 33, on a un texte de Longuerre qui apparaît. Ça, c'est la première période qui est vraiment les tout débuts. Et puis il y a deux périodes plus importantes. La période dans laquelle on trouve le plus de textes fourriéristes dans l'Écho de la Fabrique, c'est en 1833. Il y a deux groupes de textes qui sont notables. L'un donc de M. Charles Fourier et du Phalanstère, qui est une présentation par Marius Chastain. Marius Chastain, alors je reviendrai un petit peu dans la conclusion et dans les questions qui j'espère seront résolues par Jonathan et par Pierre. Chastain, ce n'est pas un canu. C'est un ancien étudiant en droit qui est donc plutôt un lettré et qui récupère le journal pendant toute la période qui va de l'été 32 à l'été 33. À l'été 33, il est mis dehors par les mutualistes et qui trouvent justement qu'il oublie un petit peu quelles étaient les fonctions de ce journal industriel. Donc il y a un groupe de 3 articles de Chastain, et puis surtout, il y a un groupe de 9 articles de Rivière Cadet, donc 9 articles tous intitulés un site de M. Charles Fourier à ses concitoyens. Donc Rivière Fourier, lui, est plutôt un négociant en soi, donc il participe à l'économie de la fabrique, l'économie générale de la fabrique. C'est pas un canu, mais c'est un négociant qui lui-même fait partie des négociants non récalcitrants, des négociants qui ne se sont pas opposés par exemple aux tarifs en octobre 1831, négociant qui est proche des Camus. Enfin, il y a d'autres mentions, donc ça je les ai relevées parce que systématiquement, il y a des cours de Berbruguière qui sont mentionnés à plusieurs reprises. Il y a une controverse qui se développe entre les fourriéristes, les vrais fourriéristes et Mazet qui monte une société commerciale d'échange. Il a un projet de société commerciale d'échange en fait qui rappelle dans ses objectifs tous les projets dans lesquels on a essayé de monter un système d'échange sans argent. Et donc il commence à développer ce projet-là. Les fourriéristes, les vrais fourriéristes, donc notamment Rivière Cadet et Berbruguière, montent au créneau pour dire que c'est une escroquerie et ça n'a rien à voir avec le système de Fourier. Et enfin, il y a toute une littérature. Donc ça, c'est des articles de l'année 1833 qui paraissent tous dans la revue L'Écho de la Fabrique. Et il y a un autre groupe d'articles importants qui est dans l'indicateur dans les années 34-35. Donc l'indicateur est le successeur de L'Écho de la Fabrique. C'est le journal L'Écho de la Fabrique après l'été 1833, donc quand les mutualistes mettent Chastain dehors parce qu'ils trouvent que ça devient un journal trop politique et trop inféodé au républicanisme. À partir de ce moment-là, L'Écho de la Fabrique devient véritablement un journal sous la tutelle du mutualisme lyonnais, donc il rassemblait les principaux chefs d'atelier politisés à l'époque. L'Écho de la Fabrique cesse de paraître en mai 34, et il est remplacé quelques mois plus tard par un autre journal, qui se présente d'ailleurs dès le prospectus comme le successeur de L'Écho de la Fabrique, et comme en quelque sorte l'organe, alors ils ne le disent pas exactement comme ça, parce que et comme l'organe du mutualisme, le mutualisme étant désormais défendu par le pouvoir de Louis-Philippe. Et donc l'indicateur lui publie de l'automne 1834 jusqu'à l'été 35. Et c'est dans l'indicateur que Michel-Marie Dorion publie le plan de son épicerie, de son commerce véritable et social, qui est en quelque sorte l'une des toutes premières, qui est l'une des toutes premières mouture des coopératives de consommation en France. Il en présente le plan dans l'indicateur, donc dans le cadre de 6 articles au départ, amélioration industrielle, donc dans l'indicateur au tournant 34-35. Et puis, dans le trimestre qui suit, il explique concrètement comment ce projet de coopérative de consommation doit fonctionner, sur quels critères de gestion il doit fonctionner pour que le projet ne soit pas une simple. Ne méritez pas tout de suite. Donc voilà, ça c'est le relevé. Alors il y en a peut-être quelques-uns, il y a quelques citations de Fourier qu'on trouve aussi dans d'autres textes mais c'est les trois principaux groupes de textes qu'on trouve liés au fourierisme dans L'Écho de la Fabrique. Alors ce qu'on peut dire concernant ces textes, donc c'est quelques indications concernant les forces qui ont été à l'œuvre finalement dans la montée de ces deux ou trois groupes de textes ou de ces deux ou trois reliefs. La première chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une présence assez forte du fourriérisme dans L'Écho de la Fabrique. Là, c'était un relevé qui était uniquement un relevé quantitatif, mais on sent une présence qui est une présence de plus en plus forte du fourriérisme dans les pages de L'Écho de la Fabrique à partir de l'été 1832 et jusqu'à la fin de la publication de cette littérature ouvrière, de cette première littérature ouvrière lyonnaise à l'automne 1835. Alors, bien entendu, la première explication qu'on peut donner, c'est que bien sûr, il y avait une sympathie naturelle qui devait se développer entre les Canus, entre ce lectorat canu, et un certain nombre de thèmes généraux qu'on trouvait dans le fourriérisme, comme le thème de l'association, comme le thème de l'harmonie et autres. La deuxième chose, c'est que bien entendu, ça, on peut considérer que c'est pas très. La présence du fourriérisme n'est pas exceptionnelle, n'est pas curieuse, dans la mesure où on sait aussi que dans cette période-là, le fourriérisme est l'une des principales sources d'inspiration des républicains, que le républicanisme se développe de façon très autonome à l'époque, dans cette période-là, de façon très vigoureuse à cette époque-là, et que donc il n'est pas le journal des Canus devenant lui-même plus proche de l'opinion républicaine, il n'est pas curieux de trouver des aspirations fouilleristes. Ceci dit, quand on lit tout le groupe de textes là, que j'ai mentionné auparavant, notamment les textes 33 et les textes 35, on se rend compte que, du moins j'ai l'impression qu'il y a trois tonalités particulières qui ont fait que le fouriérisme a été reçu, a été travaillé par les Canus dans cette période-là. Le premier point, donc c'est des catégories assez générales, mais le premier point c'est que cette littérature Canus insiste beaucoup sur le fait que ce qui est nouveau dans le fouriérisme, dans l'œuvre de Fourier, à la différence de ce qu'on trouve par exemple chez les Saint-Simoniens, ils disent par exemple le problème des Saint-Simoniens, c'est qu'ils ont voulu nous apporter une solution à la fois du passé et de l'avenir. Ce qui est nouveau dans le cadre du fouriérisme, c'est que le fouriérisme introduit une rupture qui est une rupture complète. C'est vraiment une naissance pour eux. Et par exemple, on trouve des phrases du type, donc ils insistent par rapport à leurs conditions, dans le numéro du 7 avril 33, ils disent non, cette vie de boue, de chocs sanglants et de misère toujours croissante n'est point un lot sans fin de la vie de l'humanité. Et il me semble que ce qu'ils trouvent de nouveau et qui introduit véritablement une rupture chez Fourier, c'est que Fourier pose, selon eux, de façon beaucoup plus claire que les Saint-Simoniens, l'équation nouvelle du monde à venir, du monde industriel, qui est que c'est un monde sans rareté. C'est un monde dans lequel, finalement, la catégorie qui, jusqu'alors, avait dominé toutes les formes d'organisation qu'on trouvait, cette catégorie est en voie de disparaître. La rareté des biens et autres. Et ils disent, donc, l'équation étant celle-là, la résolution de cette équation va introduire quelque chose de radicalement nouveau, c'est comment gérer un monde qui est un monde en voie d'abondance. Des problèmes, et ce monde-là pose des problèmes qui sont nouveaux. La deuxième chose qui retiennent de l'œuvre de Fourier, c'est que, bien entendu, et introduisant véritablement une rupture, et là encore de façon très nette par rapport aux Saint-Simoniens, le problème étant nouveau, il faut inventer. Et alors, il y a plusieurs passages dans lesquels Rivière Cadet, d'autres présentent toutes les la cosmologie fourieriste. Il présente les délires numériques de Fourier et autres. Mais c'est présenté de cette manière-là. Alors bien entendu, on considère que c'est outrancier, mais on considère également que c'est dans la bonne voie, parce que très certainement, pour arriver à apporter des solutions à ce monde nouveau qui est un monde avec moins ou sans rareté, il va falloir véritablement inventer des formes nouvelles. Ça, c'est le deuxième point. Et là aussi, sur ce point-là, ils insistent beaucoup sur le fait qu'il y a quelques passages dans lesquels ils insistent sur le fait, par exemple, sur l'antériorité de Fourier par rapport à Owen, par rapport à Saint-Simon. Les années, le temps comptant énormément dans cet épisode-là, ils notent le fait que ces Fourier avaient déjà compris cette nouvelle équation, cette rupture, 20 ans avant les autres. Et donc avait inventé à partir de là. Le troisième point sur lequel ils insistent beaucoup, c'est que dans le cadre du fouriérisme, le fouriérisme finalement se présente comme c'est en quelque sorte ce test par le biais de ses expérimentations. Donc il y a un certain nombre de textes sur l'expérience de Condé-sur-Vègre dans le cadre de l'École de la Fabrique. Il développe également énormément la présentation du système de Mazel dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, il y a plusieurs textes dans lesquels, alors je ne l'ai pas. Bon, il y a un texte de, par exemple, de Chastain, du 16 décembre, donc dans la première période, qui dit honneur à lui qui ne craint pas de recevoir le démenti de ses théories. Et ça, c'est un point qui est un point énormément souligné dans le cadre de cette littérature, comme est souligné le fait que dans le cadre de ces expérimentations, c'est des expérimentations qui peuvent être des expérimentations situées à un niveau local, à un niveau presque microscopique, Donc c'est des modes d'expérimentation qui sont des modes d'expérimentation qui peuvent se situer sur le mode du bricolage et qui sont finalement ouverts à ces canuts qui eux-mêmes n'acceptent pas, dans le cadre du modèle par exemple saint-simonien, et ils n'acceptent pas, il y a des textes là-dessus sur la façon dont les saint-simoniens à partir du schisme, à partir de 32, traitent les femmes, par exemple, quelle position ont les femmes dans le système saint-simonien. Par rapport à ça, le fourierisme donne aux canuts un modèle qui finalement préserve, et ils le sentent, qui préserve beaucoup plus leur autonomie et leur capacité à bricoler eux-mêmes leur avenir. Donc à l'inventer, puisqu'on est sur le registre de la rupture, à l'inventer puisqu'à le découvrir. Donc je finirai sur quelques questions, donc je lèguerai à Jonathan et à Pierre. La question numéro 1, c'est: y a-t-il d'autres textes de Rivière Cadet, donc dans la période 1833-34, ou de Michel-Marie d'Orion dans la période 34-35? Je pose cette question pour une raison simple, c'est que jusqu'au tournant de 32-33, on a la table des matières de l'École de la Fabrique. Donc on sait à peu près qui, de Chastain, Bouvry, Falconet ou autre, signe les papiers. Dans la période suivante, les signatures commencent à disparaître. Les papiers sont plus signés ou sont signés que avec des initiales, alors souvent pour protéger les journalistes, pour protéger le rédacteur en chef contre les procès qui sont en cours et qui vont se multiplier à partir de l'année 1833. Mais j'ai relevé cette liste de textes. Mais il est possible que Rivière Cadet ou Michel-Marie d'Orion, Rivière Cadet dans l'École de la Fabrique et Michel-Marie d'Orion dans l'Indicateur, aient signé plus de papiers. La question numéro 2, donc, qui suit la 1, c'est quel rôle exact joue Rivière Cadet, donc il va signer 9 papiers dans la période 2, ou Michel-Marie d'Orion qui signe énormément d'entrées du journal dans la période numéro 2. Alors on ne sait pas exactement quel rôle joue-t-il. Dans la mesure où, à mesure que le journal avance, et à mesure que la répression sur les journaux s'accentue à Lyon, et un petit peu, on ne sait plus qui sont véritablement les journalistes, qui sont ceux qui signent, on ne sait même plus qui sont les rédacteurs en chef. Et par exemple, dans le journal qui est le journal concurrent dont je n'ai pas parlé ici, de l'Écho des Travailleurs, qui est le journal qui s'appelle de l'Écho de la Fabrique, qui est un journal qui s'appelle l'Écho des Travailleurs, et que Cré Chastain, quand il est viré de l'Écho de la Fabrique durant l'été 33, on apprend dans un des numéros de l'Écho des Travailleurs que très probablement Rivière Cadet, à partir de février 1834, est de fait le rédacteur en chef de l'Écho de la Fabrique. De la même manière, en 1835, Michel-Marie d'Orion publie de nombreux papiers dans l'Indicateur, et à un moment, il est obligé, donc dans la rubrique qui s'appelle la rubrique au rédacteur, qui était ouverte au lecteur, de publier plusieurs lettres dans lesquelles il dit: je tiens à préciser que je ne suis pas le rédacteur en chef de l'Indicateur. Parce qu'il est accusé, là encore, par un journal concurrent, qui est là encore le journal de Chastain dans la période suivante, qui s'appelle la Tribune prolétaire. Il est accusé par Chastain et par ses collaborateurs d'être de fait le vrai rédacteur en chef de l'Indicateur. Donc on ne sait pas trop quel a pu être le rôle de Rivière Cadet dans l'Écho de la Fabrique et le rôle de Michel-Marie d'Orion dans l'Indicateur. Est-ce qu'ils étaient juste des papiers? Est-ce qu'ils ont fait plus que présenter des séries de papiers? Est-ce qu'ils ont été de fait rédacteurs en chef, ne pouvant pas l'afficher de façon légalement, parce que sinon ils auraient été sous la menace des poursuites de la justice? C'est pas trop. Alors la question numéro 3 qui suit encore là, c'est, et qui à mon avis sera quelque chose à régler, c'est: dans quel terme on veut parler d'un fourriérisme des canuts? Si on considère que le fourriérisme investit le journal des canuts par le biais de Rivière Cadet, par le biais de Michel-Marie d'Orion, on pourrait dire finalement c'est juste les fourriéristes qui sont allés imposer ou débarquer leur doctrine dans le cadre de la feuille canue, mais qui est une feuille canue que pour l'étiquette. D'un autre côté, on ne peut pas tout à fait dire ça, parce que c'est vrai que Rivière Cadet et Michel-Marie d'Orion, même s'ils ont eu un rôle majeur dans le cadre de l'École de la Fabrique ou dans le cadre de ces journaux-là, sont eux-mêmes des acteurs de la fabrique. Ce sont eux-mêmes des acteurs de la fabrique, négociants, et négociants très proches des canuts. D'accord ? Qui vont être suffisamment proches des canuts pour Michel-Marie Dorion pour carrément se confondre avec les canuts, puisqu'il investit toute sa fortune dans le commerce véridique et social, dans lequel il fera d'ailleurs faillite, et il devient finalement un représentant du peuple canu. Il se déleste de ses habits de négociant pour devenir un représentant des canuts. Par ailleurs, l'autre point qui pourrait nous faire douter, mais simplement d'un débarquement du voyeurisme dans l'organe canu, c'est que le mutualisme est représenté à cette époque-là une force qui était une force extrêmement dynamique. Et une grande partie du mouvement économique et social à Lyon dans les années 31-34 s'explique par l'autonomie du mutualisme par rapport justement à d'autres courants de l'opinion de l'époque, même des opinions des courants d'opinion progressive, mais que ce soit notamment les républicains. D'accord ? Pense pas qu'il y ait ça. Alors, la conclusion que je donnerai, c'est qu'il vaudra peut-être le coup d'étudier cette forme hybride de fourriérisme qu'on trouve à travers les figures comme Rivière-Carrier ou Michel-Marie Dorion, qui étaient à la fois des acteurs de la fabrique et puis des fourriéristes.